Laudetur Jesus Christus.
Le gratin de la diplomatie américaine en Turquie pour tenter de faire plier Recep Tayyip Erdogan. Plus d'une semaine après le début de son offensive sanglante contre les Kurdes dans le nord syrien. Le Liban dévoré par les flammes. Plusieurs régions du pays sont parties en fumée ces derniers jours. Et tandis que les incendies commencent à être maîtrisés, c'est maintenant la polémique qui enfle. La population pointe du doigt la faillite des autorités. Plus que quelques heures avant l'ouverture d'un sommet européen à Bruxelles, un sommet décisif sur le Brexit. Et malgré l'optimisme affiché des négociateurs, les négociations sont toujours bloquées sur le même point, la question de la frontière irlandaise. Un degré de violence rarement atteint en Catalogne, acides, cocktails Molotov et feux d'artifice ont été utilisés contre les forces de l'ordre. Nous entendrons les explications de notre correspondant à Barcelone. Et enfin, dans notre dossier en fin de journal, nous parlerons des viri probati, sujet abordé aussi notre spécial sur l'Amazonie au Vatican, une solution envisagée par certains pour pallier au manque de prêtres dans certaines régions d'Amazonie.
Le journal Marine Henriot.
Bonjour à tous. Est-ce la rencontre de la dernière chance? Ce jeudi, Recep Tayyip Erdogan reçoit à Ankara les deux émissaires de Donald Trump, rien de moins que son vice-président Mike Pence et son chef de la diplomatie Mike Pompeo, venus de Washington pour tenter d'arracher un cessez-le-feu dans le nord de la Syrie. Mais si le président turc a finalement accepté de les voir, il n'en reste pas moins campé sur ses positions et exclut toute concession. Les précisions de Manuela Figi.
Erdogan l'a dit, répété et martelé à l'envi, il ne négociera pas avec les Kurdes, car dit-il, son pays ne peut s'asseoir à la table de terroristes. Il mettra fin à son offensive si et seulement si ses ennemis déposent les armes et détruisent toutes leurs fortifications. Pas sûr donc que la délégation américaine trouve un interlocuteur conciliant. Pence et Pompeo disposent toutefois d'un atout, une liste de nouvelles sanctions que la Maison-Blanche puis le Congrès n'hésiteront pas à appliquer si un cessez-le-feu n'était pas trouvé. Mais Erdogan ne pliera pas, pas tant que son objectif ne soit atteint, à savoir créer une vaste zone tampon de 400 km de long et de 30 km de large entre son pays et la Syrie, afin d'y repousser les Kurdes et les réfugiés syriens que la Turquie accueille depuis plus de 5 ans. Ses troupes et leurs supplétifs, qui ont pris pied dans les localités de Tal Abyad et Ras Al Ain, ne devraient cependant pas s'attaquer à Kobané, la grande ville du nord-est syrien que les Kurdes avaient arrachée aux djihadistes en janvier 2015 et où se trouvent de très nombreux civils. Une ville symbole donc qui a vu hier le retour des armées du régime syrien. Appelée à la rescousse par les Kurdes, elle reprennent pied dans la région qu'elles avaient perdue il y a 8 ans, Manbij, Tel Tamer, Ain Issa, Tabqa. La liste des localités qui tombent dans l'escarcelle de Damas s'allonge inexorablement. Prochaine étape, Raqqa. L'offensive turque aura pour le moment trouvé un bénéficiaire, Bachar al-Assad.
Manuela Afiji. Le front dans le nord syrien qui suscite une peur chez de nombreux dirigeants occidentaux. Dans les geôles des Kurdes sommeillent près de 12 000 combattants djihadistes de plusieurs pays, qui représentent évidemment une menace s'ils retrouvent la liberté. Et c'est dans ce contexte que le ministre des Affaires étrangères français Jean-Yves Le Drian est aujourd'hui en Irak. Il entend négocier un dispositif judiciaire international pour juger les djihadistes de l'organisation de l'État islamique. Une dizaine de djihadistes français détenus par les forces kurdes syriennes ont déjà été transférés fin janvier en Irak pour y être jugés. Le Liban, sous les cendres, ces derniers jours, une partie du pays du Cèdre a été ravagée par de monstrueux incendies. Près de 140 foyers ont été recensés. Forêts, habitations, voitures, les flammes n'ont rien épargné. Et la région du Chouf, boisée et montagneuse, a été particulièrement touchée. Après des heures de lutte acharnée et grâce à l'aide matérielle étrangère, la plupart des feux sont aujourd'hui maîtrisés. Mais la polémique, elle, enfle sur l'origine de ces incendies et sur la responsabilité des autorités. Écoutez le père Gabriel Kerela, il est professeur à l'université Saint-Joseph de Beyrouth.
Disons il y a un abattement au pays, une forme d'abattement et puis une colère, un constat qu'une ruine de l'État. L'État n'a pas les infrastructures nécessaires pour combattre les feux. Dans beaucoup de pays, il y a eu des feux, l'État a mis du temps à pouvoir les maîtriser, mais au moins il y avait une infrastructure. Là, on nous sommes rendu compte que par exemple les hélicoptères ou les canadaires qui étaient là et qui étaient censés combattre le feu, étaient laissés à l'abandon.
D'après ce qu'on peut lire et de ce qu'on peut voir, les dégâts s'annoncent très importants.
Oui,
il y a même une catastrophe écologique et environnementale qui en découlerait.
Absolument, absolument, parce que plein de forêts qui ont été incendiées. Déjà au Liban, Il y a une bétonisation du pays qui s'accélère depuis très longtemps et donc une déforestation du pays, et ces incendies n'ont fait qu'accélérer ce problème. Justement, certaines personnes pensent qu'une partie a été provoquée par des promoteurs immobiliers pour pouvoir construire.
Des propos recueillis par Manuela Afigi. C'est le fruit d'une longue et intense collaboration policière internationale. Un réseau pédophile a été démantelé sur Internet. Plus de 300 personnes arrêtées dans 38 pays. Le site pédophile qui était abrité sur ce qu'on appelle le Dark Web, un ensemble de réseaux cryptés et cachés au sein de la partie d'Internet non référencée par les moteurs de recherche classiques. C'est une nouvelle démission qui fait tache au sein du Parti travailliste Royaume-Uni. Une députée accuse le responsable du principal parti d'opposition britannique d'avoir laissé prospérer l'antisémitisme au sein du parti et estime que Jeremy Corbyn est incapable d'assumer les fonctions de Premier ministre. Une démission qui arrive quelques mois après une série de défections au sein du Labour. Plusieurs députés avaient déjà claqué la porte, reprochant à Jeremy Corbyn sa gestion des problèmes d'antisémitisme au sein du parti. Le temps tourne pour les négociateurs. Pour la deuxième nuit consécutive, les discussions ont continué tard dans la nuit à Bruxelles entre les négociateurs européens et britanniques sur le Brexit. Leur objectif est de parvenir à finaliser un texte avant le sommet européen qui commence ce jeudi après-midi. L'optimisme affiché par les négociateurs ne leur a pas encore permis de trouver un accord à cause des difficultés à régler sur la question irlandaise. Les explications à Bruxelles de Pierre Benazet.
Les négociateurs européens et britanniques travaillent sur les modalités de contrôle douanier à l'arrivée en Irlande, ce qui signifie qu'une frontière virtuelle va couper en deux le Royaume-Uni avec la Grande-Bretagne d'un côté et l'Irlande du Nord de l'autre. En conséquence, les douanes devront inspecter tous les produits arrivant dans l'île d'Irlande, ce qui pose deux questions apparemment très compliquées. D'abord, celle de déterminer quel taux de TVA s'appliquera et ensuite, comment s'assurer que les marchandises iront effectivement vers leur destination, le nord ou le sud de l'île. Il faut aussi trouver une formulation juridique pour qu'en apparence, l'Irlande du Nord puisse paraître rester dans l'union douanière britannique. Mais en tout cas, ce sont les règles et normes européennes qui devront s'appliquer. Il y a aussi la question de la concurrence euro-britannique dans le cadre de la future relation commerciale qui doit être aplanie de manière à présenter suffisamment tôt dans la journée un texte acceptable pour le sommet européen. Il reste cependant une inquiétude majeure pour les Européens, savoir si Boris Johnson va réussir à faire avaler à ses alliés unionistes nord-irlandais du DUP des concessions qu'ils avaient déjà rejeté du temps de Theresa May. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
Et c'est dans ce capharnaüm que Gibraltar vote aujourd'hui lors d'élections législatives. Alors les enjeux sont bien sûr locaux, mais dans ce territoire britannique au sud de l'Espagne, où 96% de la population a voté contre le Brexit, le sujet s'est évidemment invité dans les débats, avec notamment une préoccupation, quid de la frontière avec l'Espagne, une question essentielle, sachant que 15 000 travailleurs franchissent la frontière quotidiennement pour aller travailler. Escalade de la violence en Espagne dans la région indépendantiste de Catalogne. C'était la troisième nuit consécutive de manifestations. Le gouvernement espagnol se dit désormais prêt à intervenir. À Barcelone, les explications de Luis Marsans.
C'est une nouvelle nuit de guérilla urbaine que vient de vivre Barcelone. Des voitures en feu, du matériel urbain détruit et un degré de violence rarement atteint dans la capitale catalane. Ces émeutes qui font suite aux condamnations contre les indépendantistes sont un vrai tournant car jusqu'à présent, le mouvement avait toujours été pacifique. Hier, une étape a donc été franchie. De l'acide, des cocktails Molotov et des feux d'artifice ont été lancés contre la police catalane. Le grand journal de Barcelone, La Vanguardia, dénonce l'attitude du président de la région, l'indépendantiste Quim Torra. A attendu 48 heures pour dénoncer du bout des lèvres les violences et encore, il les attribue à des infiltrés. Hier après-midi, il a d'ailleurs marché avec les manifestants. Il cumule les fonctions de président et d'activiste, regrette le journal. Ici, tout le monde craint désormais le pire pour la journée de grève générale qui s'annonce demain. Le Premier ministre espagnol s'est exprimé en urgence hier soir face à la violence. Pedro Sanchez annonce garantir la fermeté, l'unité et la modération. La suspension d'autonomie réclamée par l'opposition n'est pas encore à l'ordre du jour, mais elle pourrait devenir inévitable si le président catalan ne se montre pas plus ferme face aux casseurs. Barcelone, Luis Marsans pour Radio Vatican.
C'est le thème qui fait le plus parler de lui en dehors du synode. C'est aussi la question la plus controversée, l'ordination sacerdotale des viri probati. Ces hommes mariés dont la probité, la foi, la vie tout entière leur permettrait aux yeux de certains d'être ordonnés. Ce serait une sinon la solution au manque de prêtres dans certaines régions de l'Amazonie. À l'origine de ce débat, un problème concret, l'immensité du territoire amazonien, sa très faible densité, les immenses difficultés de déplacement ont pour conséquence que des communautés entières sont privées de sacrements. Est-ce là pendant des mois, voire des années? Alors comment, dans ces conditions, leur apporter l'Eucharistie plus régulièrement? Comment faire vivre la foi au sein de ces populations sans la présence d'un prêtre? À ces conditions très particulières s'ajoute justement le manque de prêtres. Ces questions, le père Roberto Jaramillo, le président de la Conférence des provinciaux de l'Amérique latine, qui coordonne les travaux des jésuites sur le continent, les a étudiés et pour lui, l'ordination des viri probati mérite d'être posée, mais ce n'est pas l'unique solution.
Il y a le manque de prêtres, c'est vrai. Il y a le manque de vocation. Il y a aussi un problème, quel type de vocation est-ce que nous avons? Pourquoi il y a des villes ou des institutions qui ont beaucoup de prêtres et il y a des endroits dans la forêt qui n'ont pas de prêtres? Mais il y a aussi des questions qui se soulèvent sur l'opportunité de reprendre une pratique de l'Église traditionnelle de l'Église depuis le commencement des premières communautés, de pouvoir reconnaître l'ordination sacerdotale, presbytérale, à des hommes mariés qui ont démontré une vie correcte, chrétienne, exemplaire, qui ont été appelés à servir la communauté aussi dans la célébration de l'Eucharistie ou les sacrements de la pénitence et de l'onction des malades. C'est tout à fait un des cas exceptionnels avec le discernement de la communauté et le discernement de l'évêque et avec l'approbation de Rome. C'est une pratique qui peut bien sûr être reprise. De toute façon, cette affaire de viri probati, ce n'est pas la solution des problèmes de l'Église. Parce que l'Église doit penser à la formation des prêtres, doit penser à la formation des laïcs, doit reconsidérer la participation des femmes et la multiministérialité des laïcs, doit travailler à être une meilleure collaboratrice avec les autres églises. Il a un tas de défis à côté de celui de viri probati.
Sur l'évolution des ministères, comment vous voyez les choses?
Si on revient sur la tradition de l'Église et les églises orientaux, la majeure partie des églises orientaux qui sont de communion catholique, ils ont maintenu comme une pratique normale la ordination des hommes mariés. Donc le thème de viri probati est tout à fait un thème ouvert dans la possibilité pastorale que l'Église peut envisager autant pour l'Amazonie que pour les autres églises.
Alors, vous avez beaucoup parlé de la formation et on en parle beaucoup lors de ce synode. Formation notamment des prêtres dans les séminaires. Qu'est-ce que là il faudrait changer pour mieux adapter les futurs prêtres à leur mission dans un environnement si particulier?
Il faudrait que l'Église soit plus ouverte au dialogue avec la jeunesse, d'abord, que nous puissions intégrer la façon de comprendre le monde, les nouvelles idées, le monde digital que nous vivons dans les discussions et dans une autre façon de former, d'éduquer les prêtres, non? Deuxième défi, je pense qu'il faut travailler profondément pour la revitalisation de la vie familiale. Les vocations sont fermes quand elles sont nées dans un milieu familial où il y a confiance, sécurité, la présence amoureuse du pardon, de la fraternité, la célébration, la foi, le partage, la préoccupation pour les pauvres, etc. Donc les jeunes, la famille, la formation des laïcs, le pape ne s'arrête pas de dire que nous sommes une église très cléricale. Le cléricalisme est comme un cancer. L'église comme telle, elle pense que l'église sont des prêtres et que les prêtres vont solutionner tous les problèmes de l'église. C'est pas comme ça, hein. Donc, il faut revitaliser et multiplier à la mesure du don de Dieu par l'esprit, avec le discernement de l'église et des évêques, la ministérialité de l'église. Il faut chercher la nouveauté que Dieu veut nous communiquer. On doit ouvrir la base de la participation laïcale de façon à que chaque personne a une place, a une chaise dans l'Église. Et la formation doit répondre à cette diversité.
Voilà, interrogé par Xavier Sartre, le père Roberto Jaramillo, président de la Conférence des provinciaux de l'Amérique latine, était ce matin l'invité de Radio Vatican. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'information en direct de Rome tout à l'heure à 13h. En attendant, retrouvez l'information du Vatican, de l'Église et du monde sur notre site internet. Je vous souhaite une très belle journée.